Votre rendez-vous bien-être vous est présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.
Ouais, deuxième partie de cette édition du magazine d'actualité que je partage avec Delphine Henequet. Coucou Delphine.
Coucou.
Rendez-vous bien-être, mieux-être. Une fois qu'on a dit ça, on peut dire que tu es salariée au magasin Au Bio. Et cet espace est géré par Ingrid et Valérie. Et situé avenue de Toulouse entre les deux ronds-points.
Ouais. Tout à fait.
Et on est tous voisins. Comme ça, bah voilà, on fait toc, toc, toc. C'est l'heure, Delphine.
Je monte.
Et de quoi tu nous parles aujourd'hui? Voilà, c'est le rythme du lundi, en fait.
Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler de l'alimentation paléo, comme annoncé la semaine dernière.
Et oui, c'est vrai. Bah alors, c'est quoi l'alimentation
aujourd'hui.
Paléo.
Du paléolithique, en fait.
Bah ouais, voilà. C'est ça.
Donc, c'est un peu en vogue en ce moment. Moi, je me suis penchée sur le sujet parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et j'ai acheté ce formidable livre. Livre très complet et passionnant de Julien Vennesson, voilà, qui est nutritionniste, qui est conseiller.
Qui vit dans une grotte.
Non, mais pas du tout.
Non, c'est pas lui. Robert Masson. Qui a été ton formateur, hein, Robert.
Tout à fait, Robert, ouais. Oui. Robert, si tu nous écoutes. Non, mais c'est plus... non, pas du tout. En fait, c'est quelqu'un qui conseille beaucoup les sportifs. Donc déjà, ce livre et cet ouvrage est écrit... surtout pour les sportifs, mais il y a des informations tellement intéressantes que chacun peut se l'approprier pour lui au quotidien. Donc je vais faire une espèce de micro rikiki synthèse en fait du bouquin en donnant quelques éléments comme ça, et puis j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus. Voilà, donc en fait il commence par démonter certains... Bon, déjà rappelons qu'est-ce que c'est que le paléolithique. C'est quand...
L'échelle du temps. Oui,
voilà, c'est quand dans l'échelle du temps. Eh ben, ça commence il y a 9 millions d'années. Donc c'était il y a un bail quand même déjà. Et en fait ça se termine il y a 10 000 ans avec le néolithique et puis la sédentarité, l'agriculture, etc. C'est important parce que ça, il faut pouvoir se le situer dans la tête. Après, quand on reparle des céréales, j'en avais déjà parlé,
Du gluten.
Du gluten, voilà. Et là, on va aussi en reparler puisque c'est quand même un des fondements, c'est de ne pas manger donc de céréales ou tout ce qui est apparu trop tardivement dans l'alimentation humaine.
Mais il y a 9 millions d'années, on n'était pas totalement formé. Enfin, génétiquement, on a évolué un tout petit peu, non? Pas du tout.
Mais
si, quand même.
Au niveau de la biochimie du corps, pas tant que ça, en fait. Voilà, on était formés. Ça reste quand même des hominidés, hein. Donc ils ont quand même la structure de base. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais voilà. Après, la biochimie du corps, elle a pas tellement évolué.
D'accord.
Et puis surtout,
nous voyons un peu comme des mutants. On s'adapte en permanence à ce qu'on peut ingérer. On s'adapte à son environnement, mais peut-être que je me trompe.
Oui, c'est vrai, mais c'est pas sans créer des problèmes. La preuve, c'est que les maladies de civilisation, pour le coup, en ce moment, ça fleurit de partout. Donc, c'est bien que le corps est pas complètement adapté à ces justement, il mute pas suffisamment vite par rapport à tous ces changements qui sont vraiment trop rapides, pour le coup.
Et ouais, ils avaient pas mal au dos il y a 9 millions d'années.
Eh bien, peut-être que non, parce qu'ils passaient pas leur journée assis. Et on n'est pas fait pour être assis toute la journée.
Eh oui.
Donc ça, c'est un vrai problème.
Ah bah, faut démissionner.
Mais en tout cas, voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, au paléolithique, oui, ok, il y a l'analyse des fossiles, etc. Il y a des trucs, mais bon, on sait pas vraiment comment ils vivaient. Mais ces populations de chasseurs-cueilleurs, il en reste encore dans le monde avec qui... On peut faire vraiment un parallèle. C'est toutes ces tribus qui sont, voilà, qui vivent de façon autonome. Alors, il y en a un peu partout, hein, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y en a en Afrique du Sud, il y en a un petit peu partout. Et l'étude de ces populations-là aussi, elle permet vraiment de comprendre ou de corroborer aussi des études, d'archéologie, voilà. Donc c'est vraiment
Into the wild, si je parle hormis tout le scénario et puis tout ça, dans la démarche du type, pour le coup, on se rapproche de l'alimentation paléo ou pas du tout?
Mais je crois pas qu'il fasse cuire lui-ci.
Ah non, voilà. Il fait pas cuire, non.
Et justement, ça fait partie. Revenons-en.
Ah.
Revenons-en donc à ces mythes. Alors on va commencer par la cuisson. C'était il mangeait tout cru, mais non, c'est pas vrai. Il mangeait pas tout cru. En fait, il y a une étude, des preuves scientifiques relativement récentes puisque c'est de 2011, qui prouve en fait que les hommes utilisaient déjà le feu et maîtrisaient le feu pour la cuisson. Il y a déjà plus d'un million d'années.
Et oui, et c'était inventé par Jean-Jacques Hano. Le réalisateur de La Guerre du Feu.
Et ouais. Voilà, donc il mangeait pas que du cru, pas du tout, hein, en fait. Il faisait déjà cuire la viande, ça c'est sûr. Il faisait cuire la viande. Donc voilà, on n'est pas dans le tout cru, c'est pas vrai.
Mais il faisait pas mijoter à l'époque. Ils avaient pas la maîtrise
Ils avaient des cuissons quand même.
Du mitonné.
Est-ce qu'ils étaient végétariens? Non, ils n'étaient pas végétariens. La biochimie du corps prouve qu'on n'est pas végétarien à la base. Je peux tout à fait comprendre
l'apport de protéines.
Oui, oui, ouais. Tout à fait. Mais même par rapport à plein de choses, par rapport au métabolisme et tout, on n'est pas végétarien à la base. Par contre, ça ne veut pas dire, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que j'encourage pas le végétarisme. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Ils mangeaient que de la viande aussi. Ils chassaient, ils mangeaient que de la viande. C'est pas vrai non plus. Ils mangeaient énormément de végétaux, de tubercules, de graines. Ils mangeaient surtout ce qu'ils trouvaient en fonction aussi des saisons et aussi de la localisation. C'est ça aussi. Il fallait s'adapter à son environnement. Et puis on dit, ouais, mais attends, ils vivaient pas vieux.
À 35 ans.
Voilà, ils étaient morts. Ouais. Ben, c'est pas vrai, en fait. Ah. Parce que l'étude, en fait, des ossements montre le contraire. En fait, quand on dit, oui, la moyenne de vie, c'était 35 ans, en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile. Et donc, si on fait la moyenne par rapport au nombre d'individus et l'âge qu'ils ont atteint, mais aussi si on prend en compte la mortalité infantile, ça baisse l'espérance de vie, en fait. Ça se trouve, vous avez un homme qui a vécu jusqu'à 72 ans, la femme jusqu'à 70, par exemple, mais s'ils ont eu deux enfants qui sont morts à la naissance, et ben ça fait une moyenne d'espérance de vie de 35 ans, alors que pour le coup, ils sont devenus relativement vieux. Donc voilà, ça c'est aussi un mythe de penser qu'ils ne vivaient pas vieux. Par contre, c'est sûr qu'ils étaient soumis à un environnement plutôt dangereux et c'est sûr qu'ils mouraient très, très régulièrement d'infections et compagnie, quoi. Donc là, dans ce livre, il présente déjà, il démonte ces mythes-là, mais de façon très rigoureuse et très scientifique. Donc c'est super, c'est vraiment passionnant. Et ensuite, évidemment, il parle de l'alimentation moderne et de tous ses travers. On en a déjà parlé, c'est que des choses que j'ai déjà évoquées. Par exemple, la carence en oméga 3 assez importante chez beaucoup de gens. Et parce qu'on mange trop d'oméga 6, ça j'ai déjà expliqué, les oméga 6 c'est tout ce qu'il y a dans les céréales ou dans les huiles de tournesol, etc. Donc si on mange trop d'oméga 6, et ben en fait les enzymes s'occupent que des oméga 6, elles peuvent pas s'occuper des oméga 3. Donc même si on en a un petit peu dans l'alimentation, ben on les assimile pas. Donc voilà, et les oméga 3 hyper importants pour le système nerveux, le fonctionnement du cerveau, etc. Donc c'est quand même hyper hyper important et ça dans notre alimentation moderne, c'est vraiment le gros souci. Ensuite, l'usage abusif des produits laitiers. Donc là, il y a tout un chapitre fort bien documenté sur les problèmes liés aux hormones, enfin l'insuline bovine qui engendre le diabète de type 1, les excès de calcium et
de chocolat
et tous les problèmes liés à l'excès de calcium, enfin au déséquilibre minéral au final, très très bien aussi construit. Tout un chapitre sur les céréales et leur apparition tardive dans l'alimentation humaine et comment en fait on n'est pas fait pour digérer les céréales et surtout pas en avaler toute la journée. Alors donc quand je dis céréales, c'est pas, faut pas penser aux céréales du petit déjeuner.
Non, mais le pain, c'est la base d'une alimentation, pâtes, voilà. En tout cas chez nous, et je crois un peu partout, dans beaucoup de pays en tout cas.
En tout cas, mais depuis qu'on s'est sédentarisé et que l'agriculture est apparue. Là il explique, il parle du gluten évidemment, mais pas que ça. En fait, il parle aussi de ce qu'on appelle les antinutriments qui sont contenus dans ces céréales et en fait qui empêchent l'absorption de certains minéraux et du zinc par exemple qu'on a évoqué déjà la semaine dernière. Il parle aussi de la toxicité de la pomme de terre qui en fait a été consommée très très tard, la pomme de terre.
La pomme de terre, c'est bien connu, c'est toxique.
C'est toxique en fait, c'est toxique cru. Ouais. On peut utiliser son jus de pomme de terre avec succès pour tous les problèmes œsophagiens. Par contre, c'est très très efficace.
Ça dépend comment tu le distilles, mais tu peux en avoir une autre utilité.
En fait, il explique que dedans, il y a des saponines qui sont des substances toxiques. D'ailleurs, tous ceux qui ont des chiens savent très bien qu'il ne faut pas donner de pommes de terre aux chiens. On peut les tuer avec une demi-pomme de terre. Donc,
la saponine, on en trouve dans la lessive.
Aussi, c'est vrai, exactement. Il parle aussi des légumineuses, c'est pas fait pour nous. Il parle de l'eau et de la pollution de l'eau. Alors là, c'est pareil, il essaye de donner tant bien que mal des conseils comme moi j'avais donné, c'est-à-dire il n'y a pas de solution idéale, il faudrait choisir ça ou ça, mais en tout cas l'eau que consommaient nos ancêtres, on est bien loin de l'eau qu'on consomme aujourd'hui, ça c'est sûr. Il parle de l'alcool, ça c'est hyper important.
Il disait qu'à l'époque...
Eh ben oui, ben si, le corps humain est fait, et ça je l'avais déjà raconté
quand
mais
on avait parlé une pomme, on digère une pomme et hop, on a notre petite verre.
C'est-à-dire qu'il mangeait beaucoup de fruits, et des fruits parfois qui étaient très très mûrs. Hein. Donc en fait, ben, il distillait. Là. Non mais en fait, en
soirée
tout cas...
Soirée pomme.
Le corps est produit de l'alcool, hein, ça, hein. Voilà, c'est hein. Produit de l'alcool. Donc en fait, l'organisme est habitué tout à fait à ces molécules d'alcool. C'est... Non mais tu sais qu'il y a des gens qui métabolisent des fruits d'une certaine manière et du coup qui se vraiment créent des cirrhoses et des problèmes au foie à cause de l'excès de fruits et de la fermentation des fruits.
Ils distillent les types.
Ben c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un foie et des organes digestifs qui fonctionnent bien. Sinon voilà, on peut se créer une cirrhose rien qu'avec des fruits. Bon, on passe si vite, c'est quand même des cas exceptionnels. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que, ben oui, l'alcool, finalement, ben, c'est quand même quelque chose d'assez naturel. Mais à utiliser avec modération.
Ben oui, ça, c'est faut le dire.
Voilà, c'est un petit peu de vin rouge de temps en temps. Moi, je suis... Elle est polie, fais donc, je le répète, ce sont de bons antioxydants. Le sel... Alors, il nous parle du sel. Ben, c'est vrai que le sel, on l'utilise à outrance dans notre notre alimentation moderne. Et c'est, le sel, il n'y avait pas de sel hein, à l'époque. Et
sans sel, quand même, c'est.
Ouais, parce qu'on est habitué. Mais est-ce que quand même, on peut pas imaginer de réduire complètement sa consommation de sel? Mais si, il faut le faire.
Et même le sel de céleri, c'est bon le sel de céleri.
Oui, non, mais pas le sel de céleri, mais en tout cas, voilà, déjà.
Ah, le sel de céleri, c'est bien, c'est mieux que le sel de la baleine bleue là.
Bah oui.
Ah bon.
Non mais il faut ou du sel rose, du sel de l'Himalaya, il faut utiliser c'est un sel sans voilà qui c'est du fossile en fait, c'est du mais c'est vrai.
Ouais.
Donc non mais il vaut mieux si on veut diminuer sa consommation de sel, il faut tout simplement cuisiner le plus possible et éviter de s'acheter des trucs tout préparés bourrés de sel quoi. C'est cool. Donc en résumé, pas trop d'oméga 6, donc favoriser les oméga 3, c'est-à-dire par certaines huiles que j'ai déjà citées, des huiles de noix, des huiles de colza. Bon, eux qui préconisent pas parce que pour eux, ça arrivait trop tardivement dans l'alimentation.
Mais tu en nous tout conseillais cas, d'alterner hein, les huiles comme les
ouais,
os d'ailleurs.
Exactement. Hein. Exactement. Manger des tartares de poisson gras, voilà, des choses comme ça. Ça, c'est sûr que on a un apport d'oméga 3 suffisant. Mais surtout, réduire l'apport d'oméga 6, donc réduire sa consommation de céréales, d'huile de tournesol, etc. Ça, c'est ça. Si on veut vraiment faire un effort, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut le faire pour se trouver mieux au niveau de sa vitalité.
Okay.
Suppression du blé et des céréales à gluten. Donc, il faut retenir bazo, blé, avoine, seigle. Orge, donc ce sont les céréales à gluten, tout ça. On vire dans l'alimentation paléo. On enlève les légumineuses aussi. On enlève les produits laitiers. Vous allez me dire, il reste pas grand chose. Eh bien, vous vous trompez. Il reste plein de choses.
Et c'est tout le reste.
Il reste, ben, déjà tous les végétaux. Tous les végétaux. Donc ça va être les légumes. Les tubercules, sauf la pomme de terre à cause de l'histoire des saponines. Mais aussi tous les fruits. Les algues dont on a parlé il y a pas si longtemps que ça.
Non, et les puis... patates c'est bon quand même, tu peux pas dire
ouais,
ça.
Ouais, mais je suis d'accord. Non mais là on peut pas s'astreindre strictement à ce qui est marqué là, c'est un peu dommage parce que on va se désociabiliser, ça va être compliqué.
Ça c'est.
Là vraiment cet ouvrage il est vraiment fait pour la performance sportive, mais je pense qu'il y a vraiment des éléments hyper importants pour voilà, pour chacun, encore une fois, au quotidien, mais sans aller jusqu'à cette rigueur-là. Mais en tout cas, privilégier les légumes, les tubercules, les fruits, les algues et les fruits oléagineux, donc qui sont noisettes, amandes, cajou, etc. Ben là, on sait qu'on a tout juste, quoi. Là, c'est forcément, on se fait du bien. Ça, c'est sûr.
Le titre de l'ouvrage, l'intitulé, chez qui, chez où ?
Paléonutrition.
D'accord.
Il parle aussi des œufs, de la viande, etc. Il conseille, dans l'alimentation, tout doit être issu de l'agriculture biologique.
Essentiel.
Voilà. Essentiel. Les poissons issus de la pêche. Et ça vous rappelle quoi, toutes ces recommandations-là?
Ça rappelle quoi, la charte du mieux
plus
vivre?
C'est un peu plus simple. Mais ça rappelle déjà tout ce que j'ai déjà dit et répété, en fait, au final. C'est vraiment des fonds. Là, c'est vraiment
c'est
quand même des choses qui sont communes, je dirais, à tous ceux qui se préoccupent d'avoir une alimentation saine. C'est vraiment.
Donc, en gros, ton discours, c'est avant, c'était mieux.
Ouais, c'est sûr. Avant, c'était mieux, ouais. Enfin, en tout cas, quand on ne s'était pas complètement dénaturé ou éloigné de la nature, forcément, on faisait des choses qui étaient plus adaptées à notre physiologie. Mais ça, j'invente rien. Donc, voilà. cuisiner le plus possible avec des végétaux, enfin des aliments naturels, pas dénaturés, éviter tous les trucs transformés, on enlève tout ce qui est inutile, les espèces de biscuits du petit déjeuner ou de céréales ou des machins qu'on nous fait croire, tout le temps qu'on a besoin de ça pour se nutrir, c'est absolument faux. Le lait, et on augmente sa consommation de végétaux. Voilà, ça doit représenter une grosse partie de son alimentation. Et puis, quand on choisit des aliments protéiques, que ce soit des œufs, que ce soit du poisson ou de la viande, on les choisit de qualité. Vaut mieux rien manger que manger quelque chose bourré d'hormones ou de j'allais dire un gros mot.
Et paf, en tout cas, c'est dit.
Voilà, alors du coup, j'en profite pour glisser là de suite ma petite citation du jour. Si tu veux rester jeune et beau, mange donc plutôt paléo.
Oh ouais, ça marche avec la cannelle pour les filles. Ouais. Paléo pour rester beau. Bah ouais. On termine de manière générale avec une petite recommandation, un produit.
Ouais, alors là.
Un coup de poing sur la table. On en a gros, pas content.
Non, là j'avoue, j'ai péché.
Ah. Non, là, les cookies vraiment. Qui tuent.
Ben un peu ouais, c'est-à-dire que j'ai une amie, Claudine et Patrick, ils font des noix, donc j'ai été récolter les noix avec eux, j'ai été les ramasser là, donc je sais où ça pousse, je sais comment le lieu est préservé, etc. Et ils font avec ces noix, des noix à l'érable, au sirop d'érable, trop bon, et elle fait aussi des cookies aux noix, alors sans blé. C'est-à-dire qu'elle fait de la farine de noix, elle mélange ça avec du blanc d'œuf, du sucre, et c'est tombé par terre, c'est vraiment encore des cookies qui tuent, je suis désolée. Ouais. On a l'impression que je suis fan de cookies, mais pas du tout. Mm-hmm. Mais là, pour le coup, des produits artisanaux et des produits vraiment super bons. Et tous ceux qui j'ai fait goûter, vraiment, ont écarquillé les yeux, ils ont trouvé ça vraiment délicieux. Donc, je vous invite vraiment à goûter ces produits.
Et puis, il faut en profiter des noix, parce que les noyers, il y a plutôt une maladie qui tourne autour de ces arbres. Hein. Par contre, il ne faut pas rester en dessous.
Ouais, faut pas rester en dessous. Faut pas faire la sieste en dessous. Mais de toute façon, le noyer, même en gémothérapie, il est toujours utilisé seul parce qu'en fait, il est pas très sociable, le noyer.
C'est pour la flore intestinale, le noyer.
Oui, c'est vrai. Bravo. Bien travaillé.
Ah bah non, mais je suis client. Mais
l'avantage, c'est que voilà, au niveau phytosociologie, c'est-à-dire vraiment, ces laboratoires-là ont vraiment étudié ça. C'est-à-dire qu'il y a des arbres, des végétaux qu'on va pouvoir utiliser en synergie parce que dans la nature, il y a cette phytosociologie qui convient. Et puis il y a des arbres, comme le noyer par exemple, qui lui ne tolère personne. Donc je même dans la prise au niveau gémothérapie, il va être pris seul. Et même en fleur de bac d'ailleurs, moi je le donne toujours tout seul.
Phytosociologie, je vais essayer de le ressortir dans une conversation cette semaine, je vais bien faire mon malin avec ça.
Exactement.
Phytosociologie.
Ouais. Sors ça et puis Roukoum, et là ça sera...
Roukoum, ah ouais. Ça c'était la semaine dernière pour se préparer au soleil. Et ben voilà, on retrouve l'ensemble de ces éléments sur le podcast du jour de la chronique Au Bio, Nature et Vie. On vous rencontre directement à la boutique Au Bio située avenue de Toulouse aussi, c'est plus simple. La semaine prochaine tu vas nous parler des cheveux. Comment faire repousser ses cheveux? Pas du tout.
Pas du tout.
Ah, c'est quoi la semaine prochaine?
Écoute, en fait, j'ai pas encore.
Ah bon, bah, d'accord. Voilà, les cheveux.
Donc, je préférerais une surprise.
D'accord, surprise la semaine prochaine. Merci Delphine, belle semaine, belle journée.
Belle semaine.
À tout bientôt. Ciao.
Au revoir.